Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la Sainte Sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce lundi de octobre 2023. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Le guide suprême de la révolution islamique accorde sa grâce à 2000 prisonniers. La libération de Rots occupés est la principale question du monde musulman, a souligné le président iranien Ebrahim Raisi. Et le mouvement Hamas réagit à l'ouverture d'un tunnel sous la mosquée Al-Aqsa. C'étaient les principaux titres, en voici le journal. Le leader de la révolution islamique, l'Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, a accepté de gracier un grand nombre de prisonniers iraniens et de commuer les peines de nombre d'autres, au total 2000 personnes. L'Ayatollah Khamenei a accepté ce lundi 2 octobre la demande du chef du pouvoir judiciaire iranien, Rollah Mohsen Yejei, de gracier ou de réduire les peines de plus de 2000 détenus. Ce sont des prisonniers éligibles à la grâce ou aux réductions de peines, condamnés par les tribunaux publics du pays, les tribunaux de la révolution islamique, l'organisation judiciaire des forces armées ou encore l'organisation des sanctions discrétionnistes de l'État. La grâce a été accordée à la veille de l'anniversaire du prophète Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. À l'occasion des festivités religieuses, le leader accorde régulièrement de tels verdicts. L'article 110 de la Constitution iranienne accorde aux dirigeants le droit de gracier ou de réduire la peine des détenus sur recommandation du chef du pouvoir judiciaire. La grâce ne s'applique toutefois pas à tout prisonnier. En sont exemptés ceux qui ont été condamnés pour leur rôle dans la lutte armée contre le pays, pour le trafic de drogue armée ou organisée, pour viol, pour vol à main armée, pour contrebande d'armes, pour enlèvement, pour corruption et pour détournement de fonds. Le président iranien Ebrahim Raisi a condamné les accords de normalisation conclus par certains pays arabes avec le régime sioniste, soulignant que la libération de Rots occupée est la principale question du monde islamique. Raisi a fait cette remarque dans un discours prononcé dimanche 1er octobre à la cérémonie d'ouverture de la 37e conférence internationale de l'unité islamique dans la capitale iranienne, Téhéran. Devenir uni ne signifie pas seulement l'unité des religions ou de la géographie. Cela signifie plutôt exprimer la cohésion et la solidarité pour sauvegarder les intérêts de l'Oumma islamique, a-t-il dit. Le président iranien a décrit l'unité des musulmans dans leur adhésion au Saint-Coran et au prophète Mohammed comme le secret de leur victoire à travers l'histoire. Recourir aux étrangers et réaliser leurs souhaits est une mesure régressive, a-t-il ajouté. Il a en outre souligné que les tentatives de normalisation des relations avec le régime sioniste sont considérées comme une mesure rétrograde pour tout gouvernement, car c'est ce que veulent les étrangers. La 37e conférence internationale de l'unité islamique a débuté dimanche à Téhéran, avec la participation de centaines d'invités venus de dizaines de pays islamiques. Très chers amis auditeurs, nous vous présenterons ce discours en intégralité dans notre commentaire politique. Le contre-amiral Shahram Irani, commandant de la marine iranienne, a déclaré que ses forces avaient réussi à équiper la frégate Sabalan de 12 missiles de croisière anti-navires, battant ainsi le record du nombre de missiles guidés installés sur les navires iraniens. Le Sabalan est une frégate de classe Alvand de la marine de la République islamique. Il a été endommagé lors d'un affrontement avec la marine américaine dans le golfe Persique pendant la guerre imposée par l'Irak dans les années 1980. Après quelques années, la frégate de 1500 tonnes a été réparée par des experts iraniens. Auparavant, le Sabalan était équipé de 4 missiles de croisière anti-navire et avait participé à 13 grandes missions navales. Les frégates iraniennes Sahand et Sina ont chacune été équipées de 8 missiles de croisière. La marine iranienne est parvenue ces dernières années à l'autosuffisance en matière de fabrication d'équipements. Elle a également accru sa présence dans les eaux internationales pour protéger les voies maritimes et assurer la sécurité des navires marchands et des pétroliers. en réaction à l'ouverture d'un autre tunnel sous la mosquée Al-Aqsa par le régime sioniste, le mouvement de résistance islamique palestinien Hamas a souligné dans un communiqué que cette action ne mènera nulle part. Le Hamas a affirmé dimanche soir, 1er octobre, que cette action constitue un autre crime commis dans le sens de la judaïsation de Quds et de la domination de la mosquée Al-Aqsa, mais que la nation palestinienne et la jeunesse révolutionnaire ne permettront jamais à l'ennemi de mettre en œuvre ses plans et politiques sinistres et y feront face résolument. La politique de mensonge et de déformation de l'histoire entreprise par les gouvernements criminels sionistes ne pourra jamais légitimer la fausse existence de cette entité sur la terre palestinienne, y compris à Rots et la mosquée Al-Aqsa, a souligné le communiqué du Hamas. Tous ces crimes et agressions des occupants sionistes dans la mosquée Al-Aqsa, entre autres l'exploitation des fêtes juives pour imposer certains faits et déformer l'histoire et la géographie de la région, ne feront que rendre les Palestiniens de plus en plus sérieux et résolus à résister aux occupants jusqu'à la libération de leurs terres ancestrales et de ces lieux saints, a ponctué le Hamas. Parallèlement aux fêtes juives, les sionistes ont ouvert un nouveau tunnel sous la mosquée Al-Aqsa qui s'étend de la place Al-Bourak jusqu'au palais Omeyyad, adjacent au mur sud de la mosquée Beni d'Al-Aqsa, a écrit le Centre palestinien d'information. En effet, le régime sioniste entend judaïser les monuments de la ville et des environs de la mosquée Al-Aqsa. Simultanément à l'ouverture de ce nouveau tunnel, dimanche matin, des dizaines de colons sionistes ont fait irruption dans les cours de la mosquée Al-Aqsa sous prétexte des fêtes juives et ont profané la première ripla des musulmans. Des sources d'information syriennes et saoudiennes ont annoncé la réouverture de l'ambassade syrienne en Arabie saoudite après une décennie de rupture des liens entre les deux pays. Le journal syrien Al-Watan a annoncé que, conformément à la mise en œuvre de la décision de la Syrie et de l'Arabie saoudite de reprendre leurs activités diplomatiques mutuelles, l'ambassade syrienne à Riyad a été rouverte après environ une décennie. Et le consul général syrien Ehsan Rahman vient de prendre ses fonctions au sein de l'ambassade syrienne à Riyad. Le 9 mai, après que le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman a accueilli le président syrien Bachar al-Assad lors du sommet arabe tenu en Arabie saoudite, Riyad et Damas ont convenu de la reprise de leurs relations diplomatiques. Des centaines de milliers de personnes ont participé à un rassemblement anti-gouvernemental dans la capitale polonaise à l'approche des élections générales qui pourraient décider de l'avenir du pays au sein de l'Union européenne. Les autorités de la ville de Varsovie ont déclaré qu'environ 1 million de personnes avaient participé aux manifestations dimanche 1er octobre, qui ont été décrites comme le plus grand rassemblement que la ville ait jamais connu. Entre 600 000 et 800 000 personnes ont assisté au rassemblement destiné à constituer une démonstration de force par le parti d'opposition, Plateforme civique. L'Union européenne a refusé de débloquer des milliards de dollars de fonds de relance en faveur de la Pologne, trouvant à redire un certain nombre de réformes judiciaires adoptées par le parti au pouvoir. La Corée du Nord reproche à l'organisme de surveillance nucléaire de l'ONU de s'être joint à une campagne de pression menée par les États-Unis et d'avoir préparé une résolution contre ses programmes nucléaires. Elle a assuré ne jamais tolérer aucun acte qui porterait atteinte à sa souveraineté. Cette ferme réprimande fait suite à l'adoption vendredi 29 septembre par l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, d'une résolution exhortant la Corée du Nord à suspendre son programme d'armes nucléaires et à respecter les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. À la 67e conférence générale de l'AIEA à Vienne, en Autriche, la semaine dernière, les pays membres de l'agence ont adopté ladite résolution. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. La libération de Rots occupée est la principale question du monde musulman. Le président iranien Ebrahim Raisi a condamné les accords de normalisation conclus par certains pays arabes avec le régime sioniste, soulignant que la libération de Rots occupée est la principale question du monde musulman. Raisi a fait cette remarque dans un discours prononcé dimanche 1er octobre à la cérémonie d'ouverture de la 37e conférence internationale de l'unité islamique dans la capitale iranienne, Téhéran. Devenir unis ne signifie pas seulement l'unité des religions ou de la géographie. Cela signifie plutôt exprimer la cohésion et la solidarité pour sauvegarder les intérêts de l'Oumma islamique, a-t-il déclaré. Il a en outre souligné que les tentatives de normalisation des relations avec le régime sioniste sont considérées comme une mesure rétrograde pour tout gouvernement, car c'est ce que veulent les étrangers. La manière d'affronter l'ennemi ne passe pas par le compromis et la capitulation, mais par la résistance et la résilience, a-t-il souligné. L'option de la reddition et du compromis n'est en aucun cas sur la table. La résistance et la résilience contre l'ennemi ont porté leurs fruits. Elles forceront l'ennemi à battre en retraite. Il a qualifié la conférence internationale sur l'unité islamique à Téhéran d'événement anti-sioniste et anti-hégémonie, ajoutant que la stratégie d'unité d'aujourd'hui peut fortifier l'Oumma islamique contre l'ennemi et la cohésion fonctionne contre sa guerre hybride. Raïssi a également appelé à une consolidation accrue de l'unité de l'Oumma islamique face aux menaces posées par les groupes terroristes takfiristes. Les crimes horribles des groupes terroristes perpétrés dans les mosquées et les centres religieux, les explosions au Pakistan, en Afghanistan, les massacres de personnes ainsi que les crimes commis par les États-Unis et les spires du régime sioniste dans divers pays islamiques, nécessite la promotion de l'unité au sein de l'Oumma islamique pour faire face aux takfiristes, a-t-il souligné. Le président iranien a appelé les érudits et penseurs musulmans à se préparer à assumer un rôle important dans le nouvel ordre mondial en promouvant la cohésion, l'unité et la proximité des religions. Raïssi a déclaré que les actes de sacrilège tels que la profanation du Saint-Coran, les insultes aux prophètes, les crimes odieux commis par les groupes terroristes, les accords de normalisation avec le régime sioniste ainsi que les campagnes médiatiques menées par les ennemis sont tous destinés à dissuader l'Oumma islamique d'avancer droit vers ses objectifs. La 37e conférence internationale de l'unité islamique a débuté dimanche à Téhéran, avec la participation de centaines d'invités venus de dizaines de pays islamiques. La conférence annuelle est organisée par le Forum mondial pour le rapprochement des écoles de pensée islamique basées en Iran, pendant la semaine de l'unité islamique qui coïncide avec l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed. Que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne, Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, les violences policières systématiques contre les Français ne cessent d'augmenter, donc, d'où les manifestations d'envergure organisées en France, dans les différentes grandes villes de France. Et bien sûr, selon beaucoup d'experts, ils étaient plus de 100 000 personnes à crier leur colère contre la façon dont la police gère la situation. Ils scandaient de slogans tels que les policiers sont partout, mais la justice nulle part. Nous allons essayer dans ce débat d'expliquer les racines de ces violences, mais également la colère des Français contre le racisme dans ce pays, à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Des dizaines de milliers de personnes ont défilé samedi 23 septembre en France pour protester contre les violences policières lors de manifestations organisées par la gauche. Des affrontements ont éclaté en marge de l'événement parisien. La manifestation nationale a eu lieu un peu moins de trois mois après le meurtre à bout portant d'un jeune par un policier en banlieue parisienne lors d'un contrôle routier déclenchant plus d'une semaine d'émeutes à Paris et ailleurs. À Paris, des manifestations de tous âges ont brandi des pancartes sur lesquelles était inscrit « Stop aux violences d'État ». Ni oubli, ni pardon, ou encore la loi tue, avec une statue figurant la justice aux yeux barrés de rouge. Les manifestants visaient particulièrement l'article 43.5.1 du Code de la sécurité intérieure introduit en 2017 qui élargit la possibilité pour les forces de l'ordre de faire feu en cas de refus d'obtempérer. Les manifestants répondirent à un appel de la gauche radicale, notamment de la gauche dure, la France insoumise, LFI. Les syndicats ont déclaré qu'environ 80 000 personnes avaient rejoint les manifestations dans toute la France, dont 15 000 à Paris, mais le ministère de l'Intérieur a estimé ce nombre à 31 300 dans tout le pays, dont 9 000 à Paris. Parmi les manifestants à Lille, dans le nord du pays, se trouvait Mohamed Leknoun, 27 ans, dont le frère Amin a été tué en août 2022 après avoir refusé d'obéir aux ordres de la police. Toute cette injustice détruit des familles, a-t-il déclaré à l'AFP. Il a déploré de n'avoir été informé d'aucune avancée dans l'enquête depuis la mise en examen du policier qui a tiré le coup mortel. La marche a eu lieu quelques jours après que l'IGPN, l'inspection chargée d'enquêter sur les fautes policières, a publié son rapport annuel sur le recours à la force par les policiers. Il montre qu'en 2022, 38 personnes sont mortes suite à l'action de la police, dont 22 ont été abattues. 13 de ces décès concernaient des cas de personnes refusant d'obtempérer.
Et bien voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par Aïssar Midani, expert des questions internationales, qui a accepté notre invitation depuis Damas. Madame Midani, bonjour.
Bonjour et merci de votre invitation. Bonjour à tout le monde, bonjour à vos invités.
Voilà, tout le plaisir est pour nous, Madame Midani. Un grand bonjour à Xavier Dupré, économiste et analyste des questions internationales, qui est avec nous depuis Bruxelles. Monsieur Dupré, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à vos auditeurs, bonjour à Madame Midani. Mais c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous.
Un débat qui s'annonce prometteur donc, et je m'adresse à présent à Aïssar Midani, qui est avec nous depuis Damas. Alors, en voyant des images de ce reportage, la violence policière systématique à l'encontre des manifestants tout à fait pacifiques, non pas des casseurs, mais des manifestants pacifiques qui réclament donc et dénoncent la violence policière et le racisme dans ce pays. D'un pays, Aïssar Midani, qui prétend d'être qui prétend être démocrate, la démocratie est partout, et dicte aux autres de suivre l'exemple de la France dans la démocratie. Est-ce que ce n'est pas une surprise, Madame Midani?
Écoutez, je ne suis pas surprise du tout, parce que ça fait depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, il y a une déferlante de violence, en fait, au niveau de la rue parisienne, c'est la rue française, dans toutes les villes d'ailleurs, qui est opéré par la police. En fait, ceci a été aggravé par les consignes que le ministre de l'Intérieur a laissé libre cours aux gendarmes et aux policiers d'utiliser des armes à feu quand ils estiment que c'est possible ou qu'ils se sentent en danger. C'est un saut dans la violence, en fait, qui a été opérée. On se rappelle dernièrement l'affaire du jeune Naël qui a été tué parce qu'il conduisait une voiture sans permis et qui a refusé d'obtempérer alors que la voiture s'est arrêtée et en fait on voit que le policier s'était introduit presque de sa tête dans la voiture et il a tiré sur le jeune homme de 17 ans en fait, hein, pour peut-être une simple contravention par rapport à la loi de la route, en fait, au code de la route.
Oui.
Bon, on a vu
Excusez-moi.
aussi
Oui.
le nombre de gilets jaunes qui ont été éborgnés, dont les mains ont été coupées, etc. Tout ça aussi parce que c'était des manifestations effectivement complètement. D'ailleurs, il n'y avait pas du tout de. Il n'y avait pas du tout de violence. La seule violence qui a commencé, ça a été la police qui a tapé sur les manifestants, où les manifestants demandaient en toute sérénité, ils demandaient l'amélioration des conditions de la retraite, les conditions de la vie, du travail, etc., mais aussi le rejet de cette réforme de la retraite qu'ils
Tout à
mettaient,
fait, oui.
qui
Oui.
allongeait de 2 ans la vie du travail.
Oui, nous
Donc,
allons. Oui.
ce n'est pas nouveau.
Oui, tout à fait. Avant de développer
Pardon.
Cette question, Madame Midani, je m'adresse à Xavier Dupré, qui est venu depuis Bruxelles. Et vous non plus, vous n'êtes pas surpris, Monsieur Dupré, de voir ces images, cette violence systématique des policiers à l'encontre des manifestants pacifiques?
Non, parce qu'on assiste en fait, plus globalement, hein, ce n'est pas le cas exclusivement en France, à une montée de ce qu'on pourrait appeler en Europe occidentale et en Amérique du Nord, donc un libéralisme libéral, en tout cas un néolibéralisme autoritaire. C'est quelque chose qui est très marqué aujourd'hui. Il y a de plus en plus, devant les tensions sociales qui se multiplient, les questions de financement de l'État-providence, c'est plutôt des retraites en France, l'inflation, la répartition des fruits de la croissance entre capital et travail, avec une part qui est de plus en plus importante, qui est allouée au capital, qui est de plus en plus importante. Tout ça pose des questions, c'est-à-dire qu'il y a une contestation de plus en plus évidente de ce néolibéralisme un peu partout en Europe et même aussi en Amérique du Nord. Jamais oublié que l'année dernière a été une année record en ce qui concerne le jour de grève aux États-Unis. Et face à cette contestation, une oligarchie financière et économique d'orientation idéologique clairement néolibérale répond par la répression des mouvements sociaux. Et on constate ça en France, sauf qu'il y a même quelque chose qui est de l'ordre finalement en France d'une espèce d'aggravation systémique. C'est-à-dire qu'au départ, il y a eu les Gilets jaunes, c'est un mouvement assez localisé dans la population française. Puis ensuite, on a vu de la violence policière non plus seulement contre les Gilets jaunes, mais contre finalement potentiellement l'ensemble du salariat, en tout cas de larges tranches du salariat qui étaient ciblées par la violence policière alors qu'elles manifestaient et représentaient la volonté de la majorité des salariés français qui désiraient que ce projet de réforme des retraites soit retiré. Et aujourd'hui, on commence à voir des jeunes qui se font contrôler. On parle parfois de jeunes qui auraient éventuellement un comportement un peu joyeux dans la ville un jour, des choses de la jeunesse, et qui se font passer à tabac. Eh bien, tout cela, ça dit quelque chose, ça dit qu'en fait, aujourd'hui, l'oligarchie qui a porté Emmanuel Macron au pouvoir, et d'autres gouvernements en Europe occidentale et en Amérique du Nord, est prête à se retourner contre sa population. C'est un processus évidemment très inquiétant. Alors évidemment, ça contribue chez moi et chez beaucoup d'observateurs à relativiser la portée universelle des modèles sociopolitiques occidentaux tels que nous avons tendance en Europe et aux États-Unis à vouloir exporter clé sur porte partout dans le monde. Nous avons un modèle sociopolitique. Il est ce qu'il est. Il est à perfectionner. Il est aujourd'hui en grand danger. Cela ne nous autorise évidemment pas à prescrire un type de démocratie qui serait valable pour le monde entier en toutes circonstances et en toute période de l'histoire. Nous avons à réparer d'abord, je crois, quand on voit toutes ces images en France et ailleurs en Europe, cette pression des services de police sur la jeunesse, sur les mouvements sociaux. Ici, dans mon pays, en Belgique, lorsque des syndicalistes bloquent une entreprise parce qu'il y a un gros conflit social, on leur met des amendes qui sont de l'ordre de 1 000 euros par jour. Ça veut dire qu'on dit à des travailleurs qui sont parfois privés de leur gagne-pain, mais de ne pas manifester leur désaccord, parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer ces amendes. Tout ceci me fait dire que l'appareil d'État aujourd'hui est endommagé, il a été victime, il est victime de métastases néolibérales qui sont en train de véritablement détruire le cerveau démocratique de nos sociétés. Nous n'avons donc qu'une seule chose à faire, c'est réparer l'état de nos démocraties et ne pas chercher à imposer un modèle démocratique au monde entier. C'est cela que ça m'inspire. Mais nous vivons une aggravation de ces données. C'est de plus en plus prégnant, de plus en plus évident. Je me promène dans le centre de Bruxelles, la Belgique est un pays relativement tranquille, et je vois régulièrement, alors qu'il n'y a ni manifestation, ni problème, la police monter sur des chevaux avec de grandes matraques. Et je crois que ça a un effet, ça a une fonction d'essayer tout simplement de faire peur à la population, d'instiller un climat de peur pour que la population ne revendique plus ses droits tant sociaux que politiques. Ça, c'est un début de passage à une forme de libéralisme autoritaire. Nous y sommes confrontés, c'est assez évident, c'est quotidien et c'est massif.
Absolument. Restez avec nous, je vous prie, Xavier Dupré. Nous avons d'autres questions à vous poser. Je m'adresse à Aïssa Armidani. Alors, Monsieur Dupré a presque tout dit. Le modèle occidental est en train de s'écrouler, si ce n'est pas déjà le cas. Une démocratie qui dicte au monde entier comment donc vivre, alors qu'on voit ces images, par exemple, qui ont fait le tour du monde, ont démontré le contraire, Madame Midani.
Oui, en effet, de toute façon, il est clair que les donneurs de leçons ne sont pas les premiers à les appliquer. Alors, depuis quelques années, la France a été, la France et l'Europe, en fait, tout le modèle européen, ils sont le terrain d'un tas de répressions. Il y a des atteintes graves au droit de grève, atteintes graves au droit de manifester, atteintes graves à l'expression, au droit de l'expression. On voit que même sur le plan des médias, il n'y a que les médias qui répètent le narratif du gouvernement et de l'État qui sont autorisés à s'exprimer, et tous les autres, on les ferme. De toute façon, on sait qu'on a suspendu tous les médias syriens depuis le début de 2012, on a suspendu le média iranien, on a suspendu le média russe, Russia Today, de tous les pays européens. Tout ça, au nom de quoi? On ne sait pas. Et alors qu'ils se prétendent les défenseurs des libertés et ils donnent des leçons au monde entier, ils ont envahi la Syrie au nom de la liberté, soi-disant, envahi l'Irak au nom de la liberté aussi. Ils veulent porter la démocratie à tous ces pays qu'ils sont en train d'envahir et de détruire et de piller, parce que c'est ça l'objectif essentiel, c'est piller les richesses de ces pays en disant « on vient vous apporter la démocratie ». Et bien sûr, les États-Unis ne sont pas… on n'en parle même pas parce qu'ils sont les rois dans cette pratique. Et aujourd'hui, l'Europe qui suit… les pas des États-Unis et suit son diktat aussi en allant en guerre contre la Russie en prétendant aider l'Ukraine. Ils entraînent tout leur peuple dans une guerre sans merci, sans avoir jamais consulté même pas l'Assemblée nationale, que ceci n'a même pas été discuté. Alors, de quelle démocratie on parle, en fait, si pour les choses importantes comme la guerre et la paix, la population n'est même pas consultée, ni la population, ni les représentants de la population, ni les représentants de l'État. Alors, de toute façon, la France, elle est gouvernée à coup de 49-3, en fait, tous les jours. C'est-à-dire, ce sont des lois qui sont édictées par le président sans consulter personne et sans que personne puisse s'y opposer. Alors, la démocratie n'est pas seulement aussi la répression ou le manque de démocratie, ce n'est pas seulement le manque de répression, la répression dans les rues, mais c'est une atteinte à toutes les libertés généralement. Et ça, c'est vraiment très grave. J'ajoute quand même, quand ils ont mis en prison pratiquement ou en résidence obligatoire des milliers de personnes, des millions de personnes chez elles sous prétexte du Covid, hein, là, c'est encore une très grave violation de la démocratie, ajoutée au fait qu'ils aient exigé un vaccin qui n'est pas un vaccin, parce qu'ils ont exigé à tout le monde de prendre le soi-disant vaccin qui est une RNA de Pfizer qui était expérimental, et ils ont exigé à tout le monde de le prendre. Ils ont suspendu les travailleurs qui ne voulaient pas le prendre. Alors ça, c'est aussi une atteinte à l'intégrité des personnes dans leur corps. Et tout ça, c'est au nom de la démocratie. Alors, c'est quand même pas seulement, c'est en train de s'écrouler. À mon avis, c'est écroulé depuis longtemps. Et le pire, c'est que les valeurs qui tiennent auxquelles tient le modèle démocratique, elles se sont écroulées depuis très longtemps. Et aujourd'hui, ils sont en train de continuer à abattre cette société, ou les derniers droits qui continuent à exister de cette société, pour que les gens soient pieds et poings liés à ce qu'ils veulent en faire.
Xavier Dupré, est-ce que vous voulez bien réagir face aux propos de Aïssa Armidani? Vous avez donné raison à la population française de manifester et d'exprimer leur colère. Et d'autres propos annoncés par Aïssa Armidani, est-ce que vous êtes d'accord?
Je crois que, si vous voulez, oui, non, il y a quelque chose. Je me rappelle, il y a 25 ans de ça, j'entrais à l'université et j'avais un cours qui parlait des institutions, et j'avais choisi un texte du monde diplomatique qui s'appelait « Le libéralisme menace la démocratie ». Je m'en rappelle très bien, et je me rappelle qu'à l'époque, on était très sceptique par rapport à ça, par rapport à ce choix, et j'avais dû tout réorienter, le monde diplomatique et l'université, ça faisait pas mon ménage. Et je suis bien forcé de constater que 25 ans plus tard, eh ben finalement, ils avaient plutôt bien vu, c'était plutôt bien vu dans cet article. La montée des inégalités, la précarisation du travail, les inégalités sociales, tout cela est en train de poser en Occident les bases d'une crise qui, depuis que la grande récession, la grande crise financière d'octobre 2008, est en train de poser un scénario, les bases d'un scénario qui ressemble de plus en plus aux années 30. Ben, c'est évident, puisque on me dit que tous les médias sont censurés en France. Je vois quand même que, globalement, le système capitaliste occidental tolère, dans son espace médiatique, hein, un ensemble de chaînes qui vont pointer le doigt sur les minorités, qu'elle soit religieuse, raciale. C'est typiquement le succès de CNews en France ou de Fox News aux États-Unis, des médias néoconservateurs, ultra-conservateurs, mais qui continuent à vouloir assurer la reproduction de l'impérialisme au niveau international et le maintien des inégalités en ordre interne au sein des différents pays concernés. Donc oui, effectivement, je crois que cette société est très en crise. Simplement, là où je serais plus nuancé, c'est que je pense qu'il existe deux démocraties en Occident. Elles sont concurrentes l'une de l'autre politiquement depuis la fin du 19e siècle. Il y a la démocratie bourgeoise, la démocratie de l'oligarchie, des parlements dans lesquels il n'y a pas un seul ouvrier, des parlements dans lesquels il n'y a pas une seule infirmière, des parlements dans lesquels il n'y a pas une seule femme de ménage. Ça, c'est la démocratie bourgeoise. Et de l'autre côté, en face, dans ce qu'on appelle la lutte des classes, il y a la démocratie ouvrière. Alors je pense que c'est vrai que ces dernières années, ces 40 dernières années, la démocratie ouvrière, la place des syndicats, les corps intermédiaires, les outils qui permettent à la majorité de la population occidentale de se doter de droits sociaux, ces instances-là, cette forme de démocratie-là, cette démocratie économique et sociale, celle-là a été clairement mise sous le boisseau, cachée, étouffée, et aujourd'hui on la réprime. Mais elle continue à être active et elle pourrait potentiellement ouvrir le champ à des débouchés politiques qui seraient davantage émancipateurs. Si vous voulez, je continue à croire au projet. Je suis un occidental, je ne peux pas être autre chose que ça. Je ne peux pas me renier parce que je discute avec des gens d'autres cultures. Je le fais bien volontiers, mais je continue à croire pour ma société en des valeurs d'émancipation qui sont celles des Lumières. Je ne cherche pas, en revanche, je renonce à vouloir les imposer à autrui. Et je pense que quand on veut imposer les Lumières à autrui, à d'autres peuples, à d'autres pays, on est déjà finalement dans une forme de violence qui est étrangère au corpus idéologique des Lumières. Je respecte les autres peuples dans leur diversité, et je pense que si nous arrivons à contester nos élites qui se servent de nos valeurs, les trahissent, les travestissent à des fins d'impérialisme économique et financier, comme l'a très bien souligné Mme Midani, je pense que si les mouvements sociaux sont capables de dénoncer ces élites, eh bien nous pourrons continuer à, quelque part, ce modèle démocratique occidental, un modèle de démocratie économique et sociale, pourrait continuer à exister, mais cette fois-ci, ce serait une coexistence avec d'autres logiques politiques, d'autres modes d'organisation politique, et nous n'en serions pas, finalement, nous en tirerions beaucoup de bénéfices. Je crois qu'aujourd'hui, enfin, il faut être quand même assez concret, ce projet d'expansion à toute la planète, d'extension, d'inclusion forcée de toute la planète à la démocratie bourgeoise occidentale est le fait de ce qu'a été l'hégémonie américaine après la chute du mur de Berlin. Or, aujourd'hui, je vois que cette hégémonie, elle s'exerce ici en Europe contre nos intérêts d'Européens. Parce que je crains mal. Enfin, on peut se dire qu'aujourd'hui, le plus gros de la crise énergétique est passé, certes, mais les prix qui sont aujourd'hui sur du gaz suite au conflit qui a quelque part été installé entre l'Ukraine, le peuple ukrainien et le peuple russe, que ce conflit-là, il a des conséquences économiques terribles en Europe, conséquences qui se traduisent d'ailleurs par une crise endémique de l'industrie allemande, c'est-à-dire le poumon économique de l'Union européenne, et qui dans les mois à venir, les années à venir, si les choses perdurent, vont se traduire par une montée des mouvements sociaux. Voilà pourquoi je ne suis pas optimiste, pessimiste. Je pense qu'il y a tellement, si vous voulez, de facteurs de dérèglement, de désorganisation de la vie en société, qui résulte d'ailleurs de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, que quelque part, des mouvements sociaux, les mouvements de protestation sociale vont être à ce point poussés et se multiplier que l'on peut raisonnablement espérer, et qu'une espérance de ma part, c'est une position politique d'ailleurs,
absolument,
on peut raisonnablement espérer une remise en cause de l'hégémonie idéologique néolibérale et donc atlantiste aujourd'hui en Europe occidentale.
Tout à fait. Bon, Xavier Dupré, analyste des questions internationales et économiste depuis Bruxelles, merci beaucoup d'avoir apporté des précisions à cette émission. Un grand merci à Issar Midani qui nous a accompagnés depuis Damas. Merci infiniment. Alors, ici prend fin le débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Voyage dans l'univers mystique de Mont Lavu. Dans cette série d'émissions, nous allons vous raconter les contes traduits du persan en français, rassemblés dans un ouvrage qui s'intitule « Le Masnavi, 150 contes soufis ». Dès les premières pages, les traducteurs soulignent la subjectivité de l'ouvrage, puisque traduit par fragments seulement et d'une manière relativement libre pour donner le reflet le plus fidèle possible de la pensée de Jalaleddin Balkhi. Qui dit choix, dit donc également interprétation et partialité. abandonner la colère. Un jour, quelqu'un demanda à Jésus, « Ô prophète, quelle est la chose la plus terrible en ce monde ?» Jésus répondit, « C'est la colère de Dieu, car même l'enfer craint cette colère. » Celui qui avait posé la question dit alors, « Existe-t-il un moyen de se préserver de la colère de Dieu ?» Jésus répondit, « Oui, il faut abandonner ta propre colère, car les hommes mauvais sont comme des puits de colère. C'est ainsi qu'ils deviennent des dragons sauvages. Il est impossible que ce monde ne connaisse pas les attributs contraires. Ce qui est important, c'est de se protéger des déviations. Dans ce bas monde, l'urine existe et l'urine ne pourra pas devenir eau pure sans changer d'attribut. » Le puits du lion. Les animaux vivaient tous dans la crainte du lion. Les grandes forêts et les vastes prairies leur paraissaient comme trop petites. Ils se concertèrent et allèrent rendre visite au lion. Ils lui dirent, « Cesse de nous pourchasser. Chaque jour, l'un de nous se sacrifiera pour devenir ta nourriture. Ainsi, l'herbe que nous mangeons et l'eau que nous buvons n'auront plus cette amertume que nous leur trouvons maintenant. Si ceci n'est pas une ruse de votre part, et si vous tenez cette promesse, alors ceci me convient parfaitement. Je ne connais que trop les ruses des hommes, et le prophète a dit, le fidèle ne répète pas la même erreur deux fois. Ô sage, dirent les animaux, il est vain de vouloir se protéger contre le destin. Ne sors pas tes griffes contre lui. Prends patience et soumets-toi aux décisions de Dieu, afin qu'il te protège. Ce que vous dites est juste, dit le lion. Mais il vaut mieux travailler que prendre patience, car le prophète a dit, il est préférable d'attacher son chameau. Les animaux. Les créatures travaillent pour le boucher. Il n'y a rien de mieux que la soumission. Regarde le nourrisson. Pour lui, ses pieds et ses mains n'existent pas, car ce sont les épaules de son père qui le portent. Mais quand il grandit, c'est la vigueur de ses pieds qui l'oblige à se donner la peine de marcher. C'est vrai, reconnut le lion. Mais pourquoi boiter quand nous avons des pieds? Si le maître de maison tend la hache à son serviteur, celui-ci comprend ce qu'il doit faire. De la même manière, Dieu nous a pourvus de mains et de pieds. Se soumettre avant de parvenir à ses côtés me paraît une mauvaise chose. Car dormir n'est profitable qu'à l'ombre d'un arbre fruitier. Ainsi, le vent fait tomber les fruits qui sont nécessaires. Dormir au milieu d'un chemin où passent les bandits est dangereux. La patience n'a de valeur qu'une fois que l'on a semé la graine. Les animaux répondirent. Depuis l'éternité, des milliers d'hommes échouent dans leurs entreprises, car si une chose n'est pas décidée dans l'éternité, elle ne peut pas se réaliser. Aucune précaution n'est utile si Dieu n'a pas donné son accord. Travailler à acquérir des biens ne doit pas être un souci pour les créatures. Ainsi, chacune des parties développa ses idées par maints arguments Mais finalement, le renard, la gazelle, le lapin et le chacal réussirent à convaincre le lion. Donc chaque jour, un animal se présentait au lion et celui-ci n'avait plus à se préoccuper de la chasse. Les animaux, sans qu'il soit besoin de les contraindre, respectaient leur engagement. Quand vint le tour du lapin, celui-ci se mit à lamenter. Les autres animaux lui dirent. Tous les autres ont tenu parole. À ton tour, rends-toi au plus vite devant le lion et n'essaie pas de ruser avec lui. Le lapin leur dit. « Oh, mes amis, donnez-moi un peu de temps afin que mes ruses vous libèrent de ce joug. Ceci vous restera acquis, à vous et à vos enfants. Dis-nous, quelle est ta ruse ?» dirent les animaux. « C'est une ruse, » dit le lapin. « Quand on parle devant un miroir, la buée trouble le reflet. » Ainsi, le lapin ne se pressa pas pour aller au-devant du lion. Pendant ce temps, le lion rougissait, plein d'impatience et de colère. Il se disait « Ils m'ont abusé de leurs promesses. Pour les avoir écoutés, me voici sur le chemin de la ruine. Me voici blessé par une épée de bois. Mais à compter d'aujourd'hui, je ne les écouterai plus. » À la nuit tombante, le lapin se rendit chez le lion. Quand il le vit arriver, le lion, sous l'emprise de la colère, était comme une boule de feu. Sans montrer de crainte, le lapin s'approcha de lui, l'air amer et contrarié. Car des manières timides vous font soupçonner de culpabilité. Le lion lui dit « J'ai déjà renversé les bœufs et les éléphants. Comment se peut-il qu'un lapin ose me narguer ?» Le lapin lui dit « Permets-moi de m'expliquer. J'ai eu bien des difficultés pour parvenir jusqu'ici. Je suis parti des lobes pour te rejoindre. J'étais même parti avec un ami. Mais sur le chemin, nous avons été pris en chasse par un autre lion. Nous lui avons dit, nous sommes les serviteurs d'un sultan. Mais lui a rugi. Qui est ce sultan? Peut-il y avoir d'autre sultan que moi? Nous l'avons supplié longtemps et finalement il a gardé mon ami qui était plus beau et plus gras que moi. Voici que désormais un autre lion s'est mis en travers de nos arrangements. Si tu souhaites que nous tenions nos promesses, il te faut nous dégager la route et détruire cet ennemi, car il n'a aucune crainte de toi. « Où est-il ? » fit le lion. « Vas-y, montre-moi le chemin. » Le lapin conduisit le lion vers un puits qu'il avait repéré auparavant. Quand ils arrivèrent aux abords du puits, le lapin resta en arrière. Le lion lui dit « Pourquoi t'arrêtes-tu? Passe devant. » « J'ai peur, » dit le lapin.
« Vois comme mon visage a blêmi. »«
De quoi as-tu peur ?» demanda le lion. Le lapin répondit « L'autre lion habite dans ce puits. »« Avance, » dit le lion. « Jette juste un coup d'œil pour vérifier s'il est bien là. » « Je n'oserai jamais, » dit le lapin, « si je ne suis pas protégé par tes bras. » Le lion serra donc le lapin contre lui et regarda dans le puits. Il vit son reflet et celui du lapin. Prenant ce reflet pour un autre lion et un autre lapin, il laissa le lapin de côté et se jeta dans le puits. Voici le sort de ceux qui écoutent les paroles de leurs ennemis. Le lion a pris son reflet pour un ennemi et a dégainé contre lui-même l'épée de la mort.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.